Bonjour à tous et bienvenue dans la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Paul Mirabel, avec
bonjour.
Tanguy Pastureau,
bonjour.
Daniel Morin et notre invité, c'est Guillaume Canet.
Oh là là, bon.
Guillaume Canet qui vient nous parler de son nouveau film, lui en salle dès demain avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta. Un film qui se déroule sur une île, voilà le thème de notre blind test du jour.
Voilà.
Dans l'île dorée.
Daniel.
Oui.
Nougaro.
Bravo, Daniel. Et
joué.
Le titre, tu l'as. L'île de Ré.
Voilà, dis donc.
Vous la connaissiez, celle-ci?
Non, mais l'île de Ré, je connais un peu. C'est très bobo.
C'est
il y a beaucoup de Parisiens. C'est très chouette. Lionel Jospin aussi y habite.
Bien sûr, pas que.
Je l'ai vu sur la plage en petit slip une fois, ça m'a fait tout bizarre.
Il paraît qu'il met une ambiance de
attends,
fou.
Est-ce que tu veux
moi,
vraiment qu'on en parle?
Non, non. J'aime les gens de gauche.
De la gauche ou de Jospin,
non,
tu veux qu'on parle?
Non, de rien en fait.
De rien du
je
tout.
Crois qu'il
y a
de l'étoffe.
Deuxième titre.
Morgane.
Oui.
Belle île en mer.
Oh, c'était pour toi, mon chat. C'était
mon
cadeau.
Chat.
On peut chanter.
Saint-Vincent.
Ah oui, Tanguy.
Loin de Singapour. C'est
l'eau, ça chante même en régie. Arrêtez de bouger comme ça, ça va me
ça
donner
va
envie de rendre.
C'est l'eau qui me sépare.
Troisième titre.
Et vous laisse. Pardon.
Ah. Très contemporain.
Ah, pff, c'est pas pour moi, alors je m'en vais. Je
mais écoute quand même les voix.
Tanguy.
Oui.
Vita Slimane.
Non,
j'attendrai. Bah non, Tanguy,
oui.
Julien Doré.
Oui.
Et Clara Luciani.
Bravo, Tanguy, tu vois, regarde.
Voilà.
Alors,
qui c'est le jeune?
Bah, pas toi après cette phrase. tu vois, c'était nickel.
Je suis pas venu là pour me faire casser.
Un point pour Morgane, un point pour Daniel,
un point pour Tanguy.
Qu'est-ce que c'est
pour
tout
Tanguy.
Et Paul va bientôt nous rejoindre.
Et Paul, c'est
bientôt,
pour
bientôt.
Toi. Mais oui, bien sûr.
Ça va, Paul?
Quatrième titre.
Daniel.
Tanguy.
Qui a crié en premier? Je crois que c'est Daniel. C'est Daniel.
Les enfants.
Les enfants.
Oh.
Ouais, Daniel. Et oui.
Le Gloubi-Boulga.
Est-ce que
ça,
tu
Daniel.
Connais ça, Paul?
Oui.
C'était l'émission pour enfants que Daniel Morin regardait quand il était petit. Il n'avait pas de poils.
Si.
C'est là-dedans qu'il y a Casimir.
Ouais. Oui, bah quand même.
Oh, ouais, c'est
oh ça va.
Quel
ah,
mépris
ouais.
pour les vieux.
Elle est plus jeune.
Fin 90.
C'est là-dedans qu'il y a Casimir.
Cinquième titre.
Oui, t'as raison.
Morgane, Jacques Brel-Mille.
Bravo.
Oh là là.
Et sur les premières.
Ouais,
attendez.
Ouais.
Comment
ah, je l'ai vraiment beaucoup écouté.
Alors que moi, je pensais que c'était la pub pour Obao.
C'est la pub pour Obao.
Elle est sublime. Ouais,
le temps
de mettre du déodorant.
Ouais, c'est ça.
C'est une merveille. Encore deux titres.
L'arche de la posée sur l'autel de la mer.
Vous êtes prêts?
Oui. C'est dur aujourd'hui.
Je suis pas fort.
De manière
de
générale.
Pour moi.
La vie est dure.
C'est plus contemporain.
Encore.
D'accord.
Oh, non,
les gars, j'ai trouvé Jacques Brel, t'as trouvé
les
Julien Doré.
Qui sont dans le chagrin pour te
Morgane,
dire
oui,
je suis
c'est.
Daniel,
Biolay.
Non.
Benjamin Biolay.
Biolay
ah,
avec.
Et José de Pâques.
C'est pas avec Chiara Mastroianni?
Non.
Attends, j'entends pas.
Combien
ah bah Vanessa Paradis.
Non.
Non.
Et le dit Frégé.
Une chanson qui frise la complainte pour te dire que la pluie est triste.
C'est Biolay et.
Et quelqu'un.
Juliette Armanet.
Ah,
ah
bon,
on ne reconnaissait pas là pour le
coup. Ah,
j'ai pas un petit point pour.
Ça fait 3 points pour Daniel.
Merci.
Si, bien sûr, je te le donne. 2 points pour Morgane, 1 point pour Tanguy, le super banco, Paul.
Aïe.
C'est là.
Paul, t'es en train de tripouiller les boutons. Que se passe-t-il? Tu n'entends pas bien.
Et c'est le super banco?
Et le super banco? Eh oui, on joue avec. Un blind test autour de l'île pour parler ensuite du film de Guillaume Canet. Lui, dernier titre, vous êtes prêts? Concentration?
Oui.
Daniel.
Morgane, oh non,
Daniel Salvador.
C'est
non,
Daniel.
Non, non, si, si,
c'est Daniel.
Sûr,
c'est Daniel.
Henri Salvador.
Tu m'as volé Salvador.
John Salvador.
Et c'est une victoire de Daniel.
Tu m'as pris Salvador. Tu m'as pris les dom-tom. Tu m'as tout pris.
Daniel, bravo.
Merci.
Et on accueille notre invité, s'il vous plaît, Guillaume Canet.
Bonjour.
Bonjour Guillaume. On a joué autour de Lille dans ce blind test puisque c'est le lieu où prend place votre récit, votre film.
J'adore d'ailleurs le morceau de Brel d'ailleurs.
Ah, dans mon île. Ouais. Une île qui est assez effrayante, Guillaume Canet, dans ce film Lui, où on a un peu les pétoches quand même au départ.
Au départ, oui. Mmh. Au départ, mais l'idée c'était de montrer aussi la dualité de cet homme et de montrer... Une île au départ qui est un peu hostile avec dans le climat, la végétation autour de lui, les habitants qui paraissent vraiment flippants. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est le monde qui s'en fait lui. C'est toute son imagination, toute son angoisse.
On va vous raconter tout, là.
Ah ouais, je vais pas trop raconter, mais en fait. Bon, en tout cas, l'île, c'était vraiment l'idée de, oui, c'est vrai, il a raison. Faut pas que je spoil. Mais c'est l'idée aussi de la dualité. C'est-à-dire qu'il y a une île, il y a un côté face au vent avec la falaise, les vagues, le tourment. Et puis, il y a le côté un peu abrité par le vent, les plages.
Et il, c'est le pronom aussi. Il, c'est le pronom, c'est l'autre.
Exactement.
C'est l'altérité. Et en effet, cet homme-là dont vous parlez, c'est un compositeur qui est un peu en panne d'inspiration, qui galère un peu, qui décide d'aller sur cette île, justement, laissant femmes et enfants de côté pour trouver refuge là-bas. L'idée, c'est de composer, c'est se dire au moins, j'aurai un endroit rien que pour moi, avec un piano qui est là, c'est désaccordé.
Parce qu'il y a une urgence, il a une commande.
Voilà,
il y a une urgence.
Et il reçoit des coups de fil, de nombreux coups de fil, lui demandant quand est-ce qu'il va envoyer cette fameuse musique.
Ouais.
Et rien ne vient.
Ouais. Oui, et puis c'est aussi l'idée de la fausse excuse, vous savez, quand on essaye d'écrire et qu'il y a le radiateur qui glougloute, quoi, et on se trouve toujours une bonne excuse de dire, bah voilà, je peux pas travailler.
Vous êtes comme ça.
Ah bah moi je suis comme ça, oui.
C'est vrai.
Et en fait, on se rend compte que c'est seulement quand il va aller puiser dans ce qu'il a lui, en lui, que la panne d'inspiration, elle n'existe pas. En fait, la page blanche, elle n'existe que quand on a mal choisi le sujet qu'on veut raconter.
Mmh.
Mais quand tout d'un coup, il va se servir de lui-même, de ce qu'il est lui, de ce qu'il fait vibrer à ce moment-là, bah, il va trouver ce thème magnifique qu'a composé Alexandre Desplat et qui est très très beau.
Alexandre Desplat qui compose cette musique, je me suis dit, il se fait vraiment bien plaisir, là, Guillaume Canet, parce que le compositeur que vous incarnez, en vérité, c'est Alexandre Desplat qui signe cette musique, c'est quand même un peu la classe.
Bah oui, c'est carrément la classe. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais eu l'occasion et la chance de travailler avec lui. Et je me suis dit, là, franchement, un film comme ça, ce que ça raconte au niveau de la musique et de tout ça, j'ai osé aller le déranger. Et il a adoré le scénario. Et il était très excité par l'idée aussi que, contrairement à un film normal où en général on voit un type en train de composer son thème et on l'entend à la fin, c'est que là on entendait le thème avant.
Ouais.
En fait, et c'est ce qui fait partie aussi de la création, c'est-à-dire que les choses en général, on les voit, on les entend avant que de les écrire, en fait.
Et vous lui avez demandé le thème très tôt dans le projet ?
Oui, très tôt et enfin très tôt. En fait, j'ai écrit le scénario en 3 semaines et je l'ai tourné en 4 un mois après. Donc en fait, le casting, la prépa, tout ça a été ultra ultra resserré et rapide. Et donc quand il a appris qu'il fallait non seulement qu'il me sorte le thème avant le film, mais en plus que ça soit pas trop compliqué pour que je puisse apprendre à le jouer au piano. Il me dit non, là, tu te fous de ma gueule.
Vous aviez peur qu'il vous fasse un plan comme celui que vous faites à vos commanditaires dans le film?
Ouais. c'est ça.
Donc finalement, vous avez été très très inspiré pour ce film où vous parlez d'un homme en manque d'inspiration puisque ça a été très très rapide. Je crois que c'est intervenu pendant la préparation d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On a été tous un peu interrompus pour plein de raisons qu'on connaît assez bien, des raisons sanitaires. Et c'est là que lui est arrivé, mais quasiment comme une urgence.
C'est venu. J'avais jamais écrit un scénario comme ça. Au départ, je pensais même pas écrire un scénario. En fait, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une maturation pendant des années. Il y a eu moi qui me suis noyé dans le travail pendant des années aussi, à pas vouloir me regarder en face. Mmh. Et là, tout d'un coup, quand j'ai compris que ma famille me supportait plus et que je passais beaucoup de temps en train de faire du bricolage, je me suis dit, je pense que je suis en dépression.
Et là, je vais faire tous les volets de la maison.
Voilà. Et là, un matin, je me suis levé, j'ai écrit ces 3 lettres. Lui, j'avais envie d'écrire. Je savais pas quoi. Et j'ai commencé à inventer une conversation entre un homme et son double. Cette petite voix qui, des fois, nous rabaisse, nous met le doute, nous rend jaloux, nous, voilà, des espèces de démons en soi qu'on
nous
peut avoir.
Nous fait comporter
de temps
comme
en temps.
Un con, vous le
voilà,
dites.
Voilà, exactement. Son connard.
Oui, là,
il appelle
son
connard. Voilà.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à écrire ces séquences-là. Et c'est comme ça qu'un film est né au fur et à mesure. Mmh. Après, je me suis demandé si ça pouvait pas être une pièce de théâtre. Et puis après, il y a des personnages. Et après, il y a la fiction qui a pris le dessus. Et puis, il y a des choses personnelles que j'ai prêtées aux personnages aussi. Et voilà. Et ça s'est écrit d'une traite, vraiment comme une fulgurance. Tous les matins, je travaillais pendant 2-3 heures sans m'arrêter. Et c'était très libérateur.
Mmh. C'est un travail d'introspection quasiment que vous menez avec ce film.
Ouais, ouais. Mais tous les films que j'ai écrits, et d'ailleurs, beaucoup d'artistes dans n'importe quelle forme d'art, oui, se servent de ce qu'on ressent. C'est très important. C'est
mais
comme
là,
ça que les
beaucoup.
Gens. Là, il y en a beaucoup.
Ouais. C'était important aussi de
sauf
vivre
la maîtresse.
Ça.
C'est alors, ça que je tiens à préciser.
Je comptais pas.
Non, parce que j'ai vu votre tête.
Mais pas moi du tout.
J'ai dit beaucoup.
Non, je comptais pas du tout aller sur ce terrain-là, de toute façon. Mais en effet, on va y venir. Il y a en effet pas mal d'éléments. Déjà, l'île. Alors, c'est belle île en mer où vous avez tourné, mais c'est une île qui vous rappelait aussi l'île de votre enfance.
Ouais, j'allais beaucoup à l'île de Wight voir mon papa qui louait une maison là-bas souvent. Et c'est vrai que quand j'ai imaginé ce personnage isolé comme ça dans un endroit, j'ai pensé à une île et je trouvais qu'il y avait au niveau du climat, au niveau de la dureté du climat par moment, je trouvais ça intéressant de tourner dans une île comme ça hors saison et en fait j'étais à Wight mais j'ai pas trouvé cette falaise et cette maison. Et c'est vrai que cette maison, quand on la voit, on se dit que si on a un pote qui va pas bien, on n'a pas vraiment envie de le laisser là-bas. Mmh.
Mais il y a quand même une atmosphère un peu Hitchcockienne.
Ouais, quoi. Ouais, très volontaire,
bien
sûr.
On voit cette maison.
Éblier.
Parce que voilà, c'est aussi la force du film, c'est qu'on a un mélange comme ça d'atmosphère. On ouvre le film avec des plans superbes, on se dit quel vénard, il part s'isoler sur une île, les chevaux au vent, super. Finalement, très rapidement, on a dans cette maison un peu angoissante, un escalier qui mène vers une sorte de grenier
où il ne faut pas y aller.
Donc déjà, on commence comme dans les contes d'enfants, surtout ne pas emprunter cet escalier, ne pas aller voir là où
il
se passe.
Oui, c'est la bombe d'Hitchcock, c'est-à-dire que c'est Hitchcock quand il met une bombe dans un train et puis après dans un wagon et après on a tout le film dans un train, on se demande quand ça va péter. Et là, c'est un peu la même idée, ouais.
Et puis, ce personnage reçoit de la visite. Alors, est-ce que c'est une réelle visite ou une visite un peu comme ça qui se passe dans son esprit? Mais il y a beaucoup de monde qui défile dans cette maison sans forcément s'annoncer, d'ailleurs. Ouais. Dans les moments les plus intimes, il y a cette maîtresse qui débarque. Alors, elle, c'est la seule qu'on voit emprunter un bateau, donc on se dit qu'elle est vraiment là.
Ouais.
Et les autres, ce médecin qui se retrouve dans cette chambre, on éteint la lumière alors qu'il n'est pas encore parti.
Alors qu'il est en train d'écrire.
La femme, votre épouse, incarnée par Virginie Efira, les parents aussi qui débarquent à n'importe quel moment, on se dit, il a beaucoup de monde dans sa tête, ce compositeur de musique.
Oui, mais moi je pense qu'on a beaucoup de monde dans notre tête, en fait. Il suffit d'essayer de se poser 2 secondes, des fois, et d'essayer de penser à rien, et on se rend compte que c'est très compliqué de ne penser à rien, ni à personne. Et je pense que, ouais, il lui fallait justement cette pause pour arrêter de penser.
Lui, le nouveau film de Guillaume Canet en salle dès demain. Alors, ça va être difficile à entendre, mais vous savez que Morgane Cadignan n'aime jamais nos invités et elle ne vous aime toujours pas.
Ah. Allez hop, Morgane.
À toi, mon chat.
À cheval.
Guillaume Canet, je vous aime pas. Non, mais je vous aime pas.
J'ai
déjà
ouvert ma bouteille d'eau.
Déjà, parce que je suis encore en train de chercher mon nom au casting du prochain Astérix, en fait.
C'est vrai.
C'est pas faute de dérouler la liste. Non, mais sans déconner, il y a même mon notaire, quoi. C'est comme au résultat du bac. Tu sais, ok, Angèle, Audrey, Vincent, Thomas, Issa, Elodie, Jean-Marc, Patou. Bon, à la fin, je dis des prénoms au hasard, puisque de toute façon, ça sera forcément quelqu'un qui joue dedans. Tant que c'est pas Morgane, ça sera au générique, quoi. Mais c'est toujours pareil avec vous, Guillaume. De toute façon, moi, je récupère les miettes de ce que vous me laissez. Depuis le début, hein. Depuis 2006, ne le dis à personne. Personne ne m'a rien dit. Franchement, dans votre dernier film qui se passe en Bretagne,
c'est
en plus. Mais un effort! Mais j'ai pas fait l'école de la rue Blanche, mais boire le matin de dos en ciré jaune, je pense que ça va quand même, quoi. Vous avez produit Japlou? J'ai 3 galops et demi. Je pense que je pouvais au moins jouer un tas de foin dans un box, quoi. Ou même une employée d'écurie. Regardez, casting imposé. Je vais rentrer Tanguy au box. Il a les sabots abîmés et la croupe un peu tendue, j'aime pas ça. Il sera jamais prêt pour le concours, installez-le sur ce gros tas de foin là-bas. Oui, celui en sweat violet. Je déconne Tanguy, tu gagnes tous les sauts d'obstacles de mon cœur, tu le sais très bien. Oh. Guillaume, vous venez aujourd'hui nous parler de votre film, lui, et sur l'affiche, c'est pas lui, c'est vous, 2 fois. En même temps, c'est normal parce que vous jouez dedans, vous l'avez écrit, vous l'avez réalisé. Ça va la polyvalence de la personne? C'est même plus un couteau suisse, c'est un sabre. J'ai appris que vous avez designé l'affiche et que vous serez au Gaumont, place de Clichy, les lundis pour servir le popcorn. Faites gaffe, Guillaume, le dernier mec qui faisait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Il est pas là, mais un beau matin, il a fini par m'engager. Ce qui est l'équivalent contractuel d'un burn-out. Du coup, pardon, hein, mais je vous trouve quand même un peu gonflé de pas avoir écrit cette chronique vous-même, en fait. Alors lui, c'est l'histoire d'un homme en manque d'inspiration qui part quelques jours pour se retrouver après une bonne engueulade avec sa femme et qui, en gros, se retrouve à passer des vacances avec ses petits démons, quoi. Franchement, quand tes démons, c'est Laetitia Casta et Virginie Efira, ça ouais. passe. Moi, mes démons, c'est quand même un autre délire. Je peux leur donner des noms d'actrices, hein, mais ça fait quand même pas rêver d'être enfermé dans la Creuse avec Angoisse de mort, Casta et Peur de l'abandon Efira. Chronique pas ouf, mais au moment d'écrire hier, mon radiateur s'est mis à faire un bruit, mais de zinzin. Mais quand même, j'ai l'impression que vos vacances se passent mieux quand vous partez avec des potes au Cap Ferret. Venez. La prochaine fois, il y aura toute la bande. On vous invite, on mangera des huîtres et vraiment, s'il fait bon, on pourra faire un tour de Tanguy.
Tanguy,
une réaction peut-être.
Tout sur moi.
Mais non, mais... Elle rêve de chevaucher Tanguy, vraisemblablement. Voilà, voilà.
Mais c'est un accessoire.
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais alors, c'est vrai que côté démon, on est pas mal, quoi. Virginie Efira, Laetitia Casta, on a des démons avec lesquels on aimerait bien passer des vacances.
Ouais, mais c'est pas les démons les plus importants de sa vie, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Là, c'est son entourage. Il est très bien entouré.
Il est très bien entouré.
Et elles sont formidables, d'ailleurs. Elles sont vraiment formidables dans le film.
Et puis, ces deux personnages féminins qui lui disent aussi ce qu'elles pense de lui, mais à travers finalement lui, parce que les dialogues, et c'est là où on se retrouve avec des scènes à la blier, vous êtes au lit avec votre maîtresse, votre femme arrive et elle est assise à côté, elle finit dans le lit, au milieu vous êtes là tous les trois à échanger.
Il leur fait dire ce qu'il a envie.
Et c'est vous qui écrivez leur texte.
Il leur fait dire ce qu'il a envie. Ouais. Et elles, d'ailleurs, s'en plaignent.
Elles s'en étonnent sur certains vocabulaires.
Il y a des choses qu'elles disent et qu'elles n'assument pas tout de suite.
C'est trop cru. Jamais je dirais ça.
Et ces deux femmes qui ont deux points de vue assez différents sur ce même homme.
Oui, puis c'est surtout deux femmes qui sont solidaires, en fait. Mmh. Je voulais pas tomber dans le cliché aussi de la femme et de la maîtresse qui étaient...
Qui se liguent
et qui sont contre lui. Et je trouvais ça assez drôle qu'elles soient complices, qu'elles soient solidaires. Elles l'aiment, cet homme, mais elles vont lui dire toutes ses vérités. Et elles sympathisent, en fait. Elles s'aiment bien, finalement. Elle comprend que je puisse être séduit par le personnage de Laetitia. Elle dit, t'as raison, en même temps, elle est belle, il n'y a pas que la surface. Elle découvre qu'en fait, c'est pas juste une belle femme.
Et lui découvre aussi qu'il a pu avoir des sentiments, que c'est pas simplement une affaire de physique.
Exactement.
Pourquoi avoir mis deux femmes, justement? Pourquoi avoir eu besoin de cette dualité? On sait que le personnage...
Parce que je pense qu'on est rien sans les femmes. Je pense que...
Mais avec une, ça peut suffire.
Non, mais je pense que le film s'appelle Lui, mais c'est pas un film non seulement sur... Alors, c'est surtout pas un film sur Guillaume Canet, mais c'est un film sur les hommes, mais les femmes aussi. C'est-à-dire qu'on vit tous ce genre de dualité et d'interrogation et d'introspection. Et je trouvais ça très important que les femmes ne soient pas victimes déjà dans cette situation-là. Et un rôle à jouer important, en fait. Et on se rend compte à quel point, d'ailleurs, cet homme est déstabilisé par même la force que peut avoir Virginie face à lui et face à cette situation. Parce que... Elle prend quand même certaines décisions qu'il ne veut pas prendre depuis longtemps, en fait.
Il y a le personnage du médecin, Gilles Cohen, les parents, Nathalie Baye et Patrick Chenet. Nathalie Baye, c'est un personnage féminin dont le compositeur n'écrit pas le texte. Elle est libre de son texte, elle, pour le coup. Et elle râle. Elle râle pas mal.
Elle râle, ouais. Bah, elle râle de ne pas pouvoir être plein comme le père l'est parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et donc, elle se plaint, elle aussi, quand elle claque la porte à quelque part, de ne pas faire un infarctus. Elle dit, pourquoi? Mais moi aussi, je vais crever. Vous me faites chier et tout ça. Parce que voilà, elle a l'impression que comme elle est forte, eh ben, on la plaint pas et on s'inquiète pas pour elle.
En tout cas, tout le casting est formidable parce qu'on est content de les voir arriver à l'écran. Tous, autant qu'ils sont,
alors,
que ce soit,
Baye,
soit la femme, la maîtresse.
C'est pas la première fois, mais les autres, c'est tout nouveau, en fait.
Ouais. Même l'équipe technique, j'ai tout changé, en fait, et c'était très agréable. Moi, j'ai toujours travaillé avec les mêmes personnes. Non, mais ils savent tous à quel point je les adore et je les aime. Mais c'est vrai, quand on a fait 6 films ensemble, depuis des années, on a fait tous les courts-métrages et tout. D'abord, il y en a beaucoup. Le chef opérateur, par exemple, Christophe, qui est comme mon frère, qui est le parrain de mon fils, et qui maintenant fait de la réalisation et fait moins de lumière. Donc ça a aidé aussi au fait de changer l'équipe. Mais c'est très agréable aussi de se retrouver sur un plateau et avec une nouvelle ambiance, forcément. Et ça, ça nous fait travailler différemment.
Alors
moi, ça m'a fait bosser autrement, d'être plus épuré. C'est la première fois que je fais un film d'une heure 28.
C'est ça.
Quand même, déjà.
C'est vrai. C'est particulièrement court.
J'ai appris à faire plus court. Et alors que j'aurais pu faire vraiment très très long, mais il y avait une vraie volonté d'être dans l'épuration et d'être cash et d'aller vraiment directement au cœur de ce que je veux raconter, en fait.
Parce que 4 semaines, c'est très court. Qu'est-ce que vous avez dû changer, justement, sur votre façon de travailler? Donc, aller plus à l'essentiel, aller plus à l'os, peut-être?
Ouais, mais c'est ma manière de travailler aussi. C'est-à-dire qu'à tous les films, je les ai toujours faits à 2 caméras, en prenant un maximum de choses, en laissant vivre les comédiens dans le cadre, et en faisant tourner un maximum de choses, et après faire mon film au montage. Là, j'ai fait mon film avant. C'est-à-dire que j'ai été faire mes courses avec la liste de courses, en fait. Je savais exactement ce que j'allais préparer à
donc
manger.
Donc on perd moins de temps.
Voilà, donc on perd moins de temps.
On dépense
va pas
moins.
Prendre un peu de partout et tout ça. On dépense moins, beaucoup moins. Et en fait, c'est très agréable aussi de travailler comme ça, d'avoir des plans presque storyboardés, en sachant exactement le plan, où il commence, où il finit. D'avoir des... C'est beaucoup plus mis en scène, si je puis dire. C'est un film... de la maturité.
De la maturité. Nous y voilà. Et Alain Attal, votre producteur, vous a suivi sans sourciller quand vous lui avez dit en pleine préparation.
Semaines, il est content.
Sauf que c'est en pleine préparation d'Astérix et Obélix que le boulot est colossal et que tout d'un coup vous arrivez en disant j'ai une idée, j'ai un scénar, je veux le réaliser.
Ouais, mais il est vraiment exceptionnel depuis le début, en fait. Quand je l'ai appelé en lui disant écoute, j'ai écrit un scénar.
Et il joue dans le film d'ailleurs.
Ouais, enfin, il a sa voix, en fait, on l'entend. Et il me dit, non, mais t'es fou, enfin, parce qu'on devait reprendre la prépa d'Astérix, il n'y avait pas de cas, on allait faire un film
Concentre-toi.
Et je lui dis, non, mais je te jure, si je le fais pas maintenant, ce film, je le ferai jamais. C'est sûr, il faut que je le fasse maintenant que je l'ai écrit. Et je lui ai envoyé. Et il m'a dit non mais on fera pas. Et il l'a lu, il m'a rappelé, il me dit il y a pas de cas où on fait pas ce film. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et conforté. Je le remercie encore là, mais il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenu dans toutes les démarches. Et voilà, c'est pas un grand producteur pour rien, quoi.
Ouais, qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce film, vous, à titre personnel, dans votre métier d'acteur? De réalisateur.
Bah ça déjà, cette confiance en moi.
Que vous n'aviez pas avant.
Non, je pense que j'avais besoin d'abord de me répéter beaucoup et dans les dialogues et dans la narration même, d'avoir des scènes qui se ressemblent pour être bien sûr que les gens aient bien compris ce que je voulais dire. Mais ça c'est des tocs. Donc je pense que aussi parce que je progresse dans ma vie que je deviens un peu moins fou. Peut-être que déjà mes films sont plus
un peu moins fou.
J'ai peut-être
la bonne voie.
Un peu moins besoin de souligner, de répéter les choses aux gens. Et donc du coup ça m'a permis d'être plus épuré. Et puis dans ma vie personnelle, je pense que ce film il m'a fait du bien, comme vous savez, là je vis un truc exceptionnel. Dans les tournées provinces, partout où je vais, je vois des témoignages de gens qui viennent me voir à la fin du film en larmes, qui me tombent dans les bras, et des ados aussi, ce que je pensais pas du tout avec ce film, parce que je pensais que c'était un film qui allait parler aux gens de ma génération, ce qui est le cas. J'ai plein de témoignages, mais j'ai aussi des ados qui viennent me voir en me disant la dualité, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, le problème existentiel, de savoir ce qu'on va faire de notre vie, de tout ça. Et cette période qu'on a vécue, qui était quand même terrible pour beaucoup de gens, et notamment chez les jeunes, c'est un film qui leur parle, parce que ça leur donne aussi un espoir de se dire que on peut aussi... être Guillaume Canet et avoir des mêmes problèmes de névrose et réussir à faire des choses. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que on se rend compte que même avec un connard en soi, il faut savoir l'accepter, il faut savoir se rendre compte qu'en fait, il est aussi bénéfique. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est ni l'un ni l'autre, c'est là qu'on a commencé à comprendre. Et là, moi, j'ai enfin compris grâce à ce film que j'étais ni le bienveillant, ni le connard. Et que, en fait, il fallait juste savoir temporiser et prendre un peu de recul et donner la parole à l'un ou à l'autre quand on leur donne.
Donc, on a peur de donner corps à un projet comme ça qui est hyper intime.
Ouais. On a peur quand on vient faire de la promo.
Ouais.
En fait. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, j'ai toujours tout fait, moi, par insouciance, par inconscience. Et ce qui, je pense, qui me permet de pas faire des films, j'espère, consensuels, en tout cas, personnels. Mais après, une fois que c'est fait, qu'on l'a fait, qu'on oublie qu'on a mis des choses personnelles, qu'on a trucs, après, on se retrouve avec la promo et à dire,
qu'est-ce qu'on raconte?
Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et voilà. Et
parce que vous vous malmenez aussi quelque part dans ce film, dans la façon dont vous présentez ce personnage.
Oui, mais si je dois parler des choses personnelles, je me vois pas en train de m'envoyer des fleurs en fait. C'est quelque chose que j'ai. Ça, c'est un partie de moi. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à me satisfaire ni de moi ni de mon travail. J'ai jamais réussi à me regarder.
Ça, c'est le connard qui est en
vous. Je déteste ma voix. Je déteste me voir à l'écran.
Mais ça, alors justement, ce film normalement doit
j'ai
vous aider.
J'ai une voix de canard.
Mais non, voilà.
Sinon, ça va.
Non, mais ce film justement doit vous permettre de ne pas écouter simplement celui qui est en vous, qui essaye de faire baisser l'estime de vous-même.
Bah oui, mais ça, c'est qu'en fait, je pense que ce connard, il m'a permis de faire beaucoup de choses en fait. Il m'a permis d'être très pointilleux, d'être très exigeant envers moi-même et éternellement recommencer, de me dire non, mais ça va pas, ça peut être mieux. Voilà. Après, ça veut pas dire que j'excelle. Ça veut dire que j'essaye de faire de mieux en mieux, en tout cas.
Que vous êtes sur le chemin. Lui est en salle demain, un film réalisé.
C'est très
par
agréable
Guillaume
d'avoir le temps
Canet.
D'en parler. Mmh. Merci.
On va continuer. On va continuer avec un très beau casting. Virginie Efira, Mathieu Kassovitz. On va revenir sur le rôle du pote.
Formidable.
Laetitia
le pote
Casta,
énervant, fait tout bien.
Nathalie Baye, Patrick Chenet, Gilles Cohen. Mais tout de suite dans la bande originale, c'est Paul Mirabel.
Oh oui, Paul.
Bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour Guillaume, bonjour
Paul.
Tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Très bien.
Eh ben écoutez, moi aussi ça va. Enfin ça va, moralement oui. Mentalement, j'ai mis encore quelques réserves, puisque pour combattre l'ennui, j'ai pris une initiative très étrange ce week-end. J'ai pris un train et je suis allé assister au match de foot Lens-Metz.
Ouais.
Déjà là, vous vous dites, bon lui, il a pas l'air d'aller très bien. D'autant plus que je supporte Montpellier, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une logique totalement imbattable.
La folle.
Oui, je crois que j'ai jamais été aussi neutre de toute ma vie pendant 90 minutes d'ailleurs, parce que c'est la première fois que pendant un match de foot, je supporte un arbitre. D'autant plus qu'il y avait également OM, PSG, Barcelone, Madrid et Manchester, Liverpool ce week-end. Et moi, je suis allé voir Lens-Metz. On dit souvent que dans la vie, il faut suivre sa première intuition. Là, j'aurais peut-être dû suivre la deuxième. Hein. Je pense que si on m'avait proposé Bienvenue chez les Ch'tis il y a quelques années, j'aurais pu répondre « Je suis pas sûr que ça a marché ton film là ». Ça m'a même fait douter de moi sur le moment, puisque je me suis dit que j'étais un peu bizarre d'avoir pris cette initiative. Puis j'ai discuté avec quelqu'un là-bas et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ça va. Ouais, je vous partage l'astuce. Si un jour vous avez l'impression d'être un peu bizarre, n'hésitez pas à entamer des conversations avec des inconnus, puisque dans l'époque dans laquelle on vit, ça déculpabilise énormément. Puisque devant le stade, là, il y a un monsieur qui m'a proposé d'acheter un petit bout de pelouse pour 50 euros. Sauf que moi, je lui dis, je suis désolé, monsieur, je fume pas. Il m'a dit, non, c'est un vrai bout de pelouse, c'est le seul endroit du monde où tu peux en trouver. Je lui dis, je me doute que c'est plus compliqué dans une bibliothèque. J'ai acheté le petit bout de pelouse, finalement, sauf que maintenant, je sais pas trop quoi en faire. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'à Paris, ça peut me faire un petit bout de jardin. Donc si certains d'entre vous pensent qu'ils ont passé un mauvais week-end, sachez que j'ai acheté un bout de pelouse 50 euros et que je vends donc un bout de pelouse 60 euros. Surtout que je me suis dit, imagine si je me fais contrôler par la douane sur le retour, j'ai un petit bout de pelouse sur moi, ça se trouve je suis un peu devenu un go-fast. D'autant plus que moi je fume pas de drogue personnellement, parce que fumer de la drogue ça fait maigrir. Donc je pense que si je fume, je disparais.
Hein.
Mais ce qui est rassurant avec l'époque dans laquelle on vit, je trouve, c'est que même quand tu penses être un peu bizarre, il y a toujours quelqu'un de plus bizarre que toi. Je l'ai constaté parce que je suis allé dans un bar en rentrant de ce séjour dans lequel ils avaient fixé les tables au sol. Et le serveur m'a dit, c'est pour pas qu'on les vole. Moi je lui dis, mais monsieur, qui va voler une table? On n'a jamais eu l'écho d'un fait divers où quelqu'un avait volé des tables. Et à l'inverse, je n'ai jamais vu une table partir en courant d'un restaurant en disant, ça fait 5 ans que je bosse ici, j'en veux plus. C'était un concept de bar très compliqué en plus. C'est un bar dans Paris où les prix bougent en fonction de l'heure qu'il est. Moi j'ai dit au serveur, donc les prix bougent mais les tables elles ne bougent pas. Qu'est-ce que c'est que cet établissement, monsieur? Puis après j'ai senti qu'il y avait une opportunité, qu'il était un peu plus bizarre que moi. Donc je lui dis, si ça vous intéresse, j'ai un bout de pelouse à revendre 60 euros. Voilà, je vous laisse puisqu'il faut que j'aille préparer mon prochain week-end pour aller voir Brest, Lorient. Merci. Tout le monde m'a
bravo Paul. La musique avait des dates pour
Mais
Paul.
Bien sûr Paul, bien en sûr. Tournée dans le sud de la France. Et attention, les 8, 9 et 10 décembre 2022, l'Olympia. Oui, oui monsieur.
Bravo. La musique dans le film Lui de Guillaume Canet, musique composée par Alexandre Desplat. Desplat.
On va mettre le S.
Voilà. Une musique qui fait peser parfois une atmosphère très inquiétante sur ce film.
Oui, ça c'est le début.
D'ailleurs là,
on
n'est
pas
dans
très
le studio,
à l'aise.
On se sent un peu inquiet.
Ouais.
Il y a une drôle de...
Et le thème qui
le thème évolue et c'est voilà.
Il va vers quelque chose de plus léger, radieux, plus lumineux. Et c'est un thème que vous avez dû apprendre à jouer au piano parce que non seulement vous lui demandez de composer un thème en très peu de temps,
mais je lui demande de composer un thème que je peux jouer. Et bon, finalement, j'ai pas réussi à tout jouer. Hein. Ce qu'on voit jouer au piano dans le film, c'est les seuls moments que j'arrive à jouer en fait. Mais c'était trop difficile pour moi.
Et il a fallu que Virginie aussi apprenne à jouer. Ou elle était un peu de dos.
Du violoncelle, elle est un petit peu de dos.
Ouais, donc là, vous êtes
aussi. C'est un peu la magie du cinéma.
C'est ça. On peut tout d'un coup devenir un grand compositeur.
Mais j'aimais bien la position de le violoncelle. Je trouve que c'est vraiment un instrument qu'on embrasse, qu'on enveloppe. Et il y a un truc.
Il y a un truc charnel.
Ouais,
il y a un truc charnel. D'ailleurs, dans le film, on a beaucoup de scènes.
C'est un instrument très organique.
Ouais. On a beaucoup de scènes dans le film où il y a un corps à corps avec sa maîtresse, par exemple.
Oui, c'est la première fois que je filme des gens nus, d'ailleurs.
C'est vrai.
J'ai jamais aimé ça et je suis pas très à l'aise avec ça.
Ah, c'est marrant parce que moi, c'est le premier truc auquel je penserais, vous voyez.
C'est vrai.
Oui, c'est
filmer des gens nus.
C'est vrai.
Non, pardon.
Ouais, c'est un nom. Hein.
Oui, oui, je sais. C'est un genre.
C'est un autre genre
de perversité. Voilà. On ne juge pas, mais c'est un autre genre.
Ça fait un peu plus mal au cul.
C'est ça.
On va se laisser là-dessus.
Allez, tant mieux, bravo.
Vous n'aimez pas les filmer, vous n'aimez pas les tourner aussi.
Non, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, un peu gratuit. Alors des fois, il y a des metteurs en scène qui font ça très très bien et ça peut être très beau. Mais j'ai toujours eu un problème un peu avec l'idée d'un acteur qui se balade les glinches à l'air sur le plateau. Ça a toujours été un truc un peu dérangeant pour moi.
Ça aussi, j'aurais pas dit comme ça. On va se promener à présent, Guillaume Canet, dans les années qui ont compté dans votre vie avec votre bande originale. On commence dans les années 94-95. Fortunate Son de Creedence Clearwater. Pourquoi ce titre, Guillaume ?
Alors, je jouais au théâtre, une pièce qui s'appelait La ville dont le prince est un enfant, et on tournait partout en France, et tous les soirs, quand ils avaient installé le plateau, le décor et tout, avant la représentation, j'y allais, j'avais mon Walkman à l'époque. Et je me mettais ce son-là à fond dans les oreilles, et je dansais tout seul, à fond, en espèce de pogo, à fond, et je déchargeais en fait un peu, je pense, l'angoisse du jeu le soir, et j'adorais ça en fait. Et c'est un morceau, et Creedence Clearwater, c'est un groupe extraordinaire.
Que vous continuez à écouter quand vous avez besoin de décharger.
Ouais, quoi.
Non,
ouais.
Un titre. Pardon, on est en 94.
Vous voyez ce que vous prenez, Guillaume?
On est sur une pente glissante.
Mais c'est ma faute aujourd'hui. C'est moi qui ai commencé tout à l'heure, et maintenant l'émission prend un autre tournant. Voilà.
Je préfère ne pas écouter de musique en général dans ces cas-là.
On est en 94-95, et vous réalisez votre premier court-métrage, Sans regret, Guillaume Canet.
Très bien.
Ouais, sans regret.
Alors, de quoi il était question dans ce court-métrage ?
Dans ce court-métrage, il était question de deux personnes, c'est un fait divers en fait. C'est deux personnes qui dérapent, deux jeunes qui font les cons dans Paris et qui s'amusent et tout ça. Et à un moment, ils rentrent dans une loge de concierge et ils font les cons à l'intérieur. Et puis à un moment, le mec sort et sort un fusil de chasse. Et ça finit un peu mal dans la rue. Et c'est un espèce de fait divers, voilà, de deux jeunes qui ont voulu faire les cons. Et c'est parti un peu mal. Et en parlant de musique, à l'époque, il y avait Yannick Top et Serge Perratonnerre qui étaient les musiciens de Michel Berger, qui étaient dans le restaurant où j'allais tout le temps. Et les mecs avaient été hyper gentils. C'était mon premier court-métrage. Ils m'avaient filé un morceau.
Gratuitement.
Et donc, s'ils m'entendent, je les remercie encore.
On passe à l'année 99. Et cette musique, Guillaume Canet.
Est-ce que je décharge ?
Non.
C'est une musique.
Elle était calmée.
Non, mais tu regardes Guillaume Canet en espérant.
On avait réussi à l'endormir.
Je ne suis pas que du vice.
Et c'était 99, mais c'était même aussi avant. De toute façon, maintenant, tout ce qu'on va dire va être forcément plus autrement. Mais c'est un morceau que j'adore et que j'écoutais beaucoup dans cette. dans cette période-là, en fait. Je sais pas pourquoi, mais un peu avant aussi, mais là, c'était, voilà, Lou Reed, ouais, c'est The Velvet Underground et tout ça, c'était des morceaux que j'aime beaucoup.
Vous êtes nommé pour le César du meilleur espoir masculin pour En plein cœur de Pierre Jolivet, puis vous tournez aussi à La plage de Danny Boyle, qui sort sur les écrans en 2000, l'année d'après. Un premier rôle dans un film étranger, en tout cas. C'est un film qui réalise plus de 2 millions d'entrées, et vous vous dites à ce moment-là que c'est une proposition qui est folle parce qu'elle va vous permettre sans doute de réaliser, et on l'a vu dès 94, cette envie de réalisation, elle arrive très très tôt dans votre vie à vous.
Bah en fait, moi je voulais être metteur en scène avant d'être acteur en fait. Et c'est parce que j'ai fait un cours de théâtre pour essayer de comprendre le métier de comédien que ça m'a plu. Et puis surtout, j'ai compris que j'allais pouvoir gagner de l'argent plus rapidement pour payer mes cours et payer mes courts-métrages et la pellicule et tout. Et en fait, je me suis retrouvé sur ce tournage en Thaïlande. Je me rappelle du premier soir, il y avait une fête sur la plage avec le producteur thaïlandais qui avait fait une fête. J'avais les pieds dans l'eau. La pleine lune, il y avait des filles sublimes. Je suis en train de faire un des plus gros films au monde avec une grande star mondiale qui était DiCaprio. Mmh. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et j'ai passé 4 mois à fumer de la pelouse, mais pas de celle de Lens, et à faire de la plongée. Et j'ai tourné 15 jours sur 4 mois, quoi. Donc c'était plutôt un rêve. Je suis arrivé, tout le monde m'a mis sur les couvertures de journaux et tout ça, le nouveau français et tout ça. Sauf que derrière, j'ai fait un film dans lequel j'étais très très mauvais, qui était Vidocq. Et là, j'ai plus de scénario pendant un an, et c'est là que je me suis dit, ok, bon, maintenant,
je retourne en Thaïlande.
Voilà. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être ça, j'aurais pu y rester, en fait. Là, prof de plongée.
C'est ça.
Avec des dreads.
Bon, la foule
m'a regardé. C'est ça. Mais non, voilà. Et je me suis dit, non, t'as toujours voulu être metteur en scène, fais ton film. Et c'est là que j'ai fait mon film En idole.
Et on arrive à 2002. Ça fait du bien de réentendre Sinclair.
Ah ouais. Et cet album, La Bonne Attitude, il était fou. Et voilà, et c'est Mathieu qui a fait la BO de mon premier film, donc de mon idole. Et j'étais très très heureux, et c'était un très grand ami que je salue. Voilà.
Et c'est à ce moment-là que vous considérez, vous le dites dans une interview, que vous êtes vraiment un acteur.
Oui, bah en fait c'est parce que... par rapport à mon idole.
Ouais,
en fait, c'était pas prévu que je joue dans le film. L'acteur m'a planté 3 semaines, je crois, avant le tournage. Et je me suis retrouvé à faire le rôle. Et en fait, ce qui était très étrange, c'est que je me suis rendu compte que le travail que je demandais, en fait, aux acteurs sur la préparation de leur personnage, c'est un travail que j'avais pas fait du tout moi, en fait, avant, sur les quelques films que j'avais fait. Et je me suis dit, en fait, je l'ai vraiment fait en branleur, en fait. Et c'est à partir de ce film-là que j'ai réalisé, en fait, que je pourrais me mettre un peu plus au boulot en tant qu'acteur, et j'ai l'impression que ça s'est senti.
Et ça passe par quoi, se mettre un peu plus au boulot en tant qu'acteur, aujourd'hui, pour vous?
Bah, pour moi, c'est de réfléchir au personnage, à ce qu'il raconte, à sa manière de dire les choses, à sa manière de parler, de marcher, de... Moi, j'étais toujours dans un truc de me dire que le personnage pouvait me ressembler, que c'était facile, voilà. Et j'ai un petit peu plus travaillé ça après, quoi.
On passe à l'année 2016. Alphaville.
Improbable.
Non mais là je rigole parce que en fait c'est une scène de rock'n'roll, et j'adore cette scène parce qu'elle est tellement... c'est quand il part tout botoxé, tout musclé, avec un espèce de jean neige hyper serré, un blouson et je sais pas combien de valises, et il part faire sa carrière de dans une série aux États-Unis, à Miami, Crocodile Ranger. Et avec cette musique de Forever Young, où il y a une espèce de truc un peu... émouvant, où il quitte femme et enfant, et Forever Young, voilà, il veut rester jeune pour toujours, et c'est très kitsch. Et ça me fait vraiment marrer, en fait. J'aime beaucoup la ringardise de ce personnage.
La Highlander du cinéma.
Ouais, c'est ça.
Rock'n'Roll sort en 2016. Vous racontez que c'est une envie d'insouciance, tout d'un coup, qui a... qui a fait naître ce film après un épisode un peu difficile, un long et douloureux burn-out.
Ouais.
Vous êtes un des rares à parler aussi ouvertement de ça.
Moi je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là sans être un peu sincère, quoi. Donc ouais, je raconte. De toute façon, vous savez, les gens se gênent pas pour me raconter si moi je me raconte pas. Donc je préfère raconter la vraie version.
Ouais, ouais.
C'est un peu l'idée aussi de rock'n'roll, c'est que on avait tellement permis de raconter des choses sur mon image, sur qui j'étais vraiment, soi-disant, qu'à un moment j'ai dit ok, vous voulez jouer avec ça, je vais jouer aussi moi avec ça et je vais je vais raconter ce que je vais m'amuser avec
Yann Canet.
Vous n'avez pas peur en tout cas de vous livrer, et ça c'est, et lui en est encore un exemple. C'est comme si on allait encore un peu plus loin progressivement. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller encore plus loin que lui dans ce récit de soi? Et cette introspection.
Mais je sais pas, après ça dépend de ce que je vivrai et tout ça, mais je conçois pas et j'arrive pas à faire ce métier autrement qu'en étant honnête et sincère, en fait. C'est ce qui me permet de créer. Il y a forcément une part de fiction tout le temps et on imagine des choses et ce qui est très agréable. Mais en fait, je pense que c'est ça qui me plaît.
Avec une véritable autodérision, parce que dans Rock'n'Roll, il y a des scènes comme le pé au lit, par exemple, qui est priceless.
Ouais.
je suis retombé
dessus la dernière fois, j'étais à Metz, justement. Et j'étais à Metz et je suis tombé dessus à la télé et pile poil sur cette scène où je lui dis bonne nuit et je me retourne et on entend
le vent
avec un son vraiment particulier et je me rappelle de la première projection où il y a une espèce de silence dans la salle et où ça m'a fait encore plus rire de la gênance des gens, etc. Parce que c'était une projection que j'ai fait avec des potes, en fait, et ils sont tous retournés en me disant non mais sérieux, t'es complètement timbré.
Mais j'adore cette scène. On va parler de lui avec Marie-Claude Gavard. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, auteur de nombreux livres dont Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, colère, blocage, déprime, conflit, tous les conseils pour s'en sortir aux éditions Marabout. Dans le film de Guillaume Canet, il met en scène son double, en tout cas une forme d'altérité qui n'est pas exactement lui, mais avec laquelle il essaye de dialoguer ou de s'en sortir.
De vivre.
Est-ce qu'on a tous l'impression comme ça d'avoir ce double, cette dualité, voire cette multiplicité, parce que deux, c'est pas beaucoup peut-être.
Oui, deux, c'est un début. Deux, c'est un début. Et là, dans le film, on voit à quel point il y a une intensité de vécu, de réflexion. Et j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant de voir que ces réflexions démarrent dès l'enfance. Les deux enfants que vous faites jouer sont remarquables de sensibilité, de réflexion. Et on voit que c'est le début d'une vie avec des traumatismes qui va arriver à l'adulte qui se prend la tête gravement.
Est-ce que c'est grave?
Heureusement. Alors, c'est indispensable, j'ai envie de dire.
D'accord.
C'est absolument indispensable. Parce que nos angoisses, ce sont quand même des cadeaux de l'inconscient. Quand on dit ça, ça paraît un peu bizarre.
Oui, c'est vrai, mais ça paraît bizarre.
Ça paraît bizarre, voilà. Mais en fait, si on a une angoisse et qu'on n'en tient pas compte, c'est-à-dire si on ne comprend pas d'où elle vient, elle va s'amplifier, on va être de plus en plus mal, et on peut arriver à un burn-out ou à des tas de choses. C'est-à-dire que l'angoisse est un cadeau de l'inconscient qui nous dit, écoute, là, ça ne va pas, réfléchis, et il faut changer quelque chose.
Mais comment trouver justement cet élément déclencheur? Est-ce que vous l'avez trouvé, Guillaume Canet?
L'élément déclencheur, je vous dis, c'est d'être face à moi-même. Et je pense que cette période qu'on a vécue tous, qui a été très difficile pour beaucoup, a en même temps, en tout cas pour moi, été salutaire, parce que le fait de m'interdire de travailler, de pas me noyer dans le travail, j'ai fait face tout d'un coup à quelque chose qui jaillissait en moi et qu'il fallait que je prenne conscience. Et il y a ce poème magnifique que Marion m'a fait lire un moment quand je lui ai fait lire les premières pages en disant je sais pas trop ce que je suis en train d'écrire et pourquoi j'écris ça. Et elle m'a fait lire ce poème de Rumi, en fait, qui est un poète persan du XIIIe siècle, qui s'appelle La Maison d'Hôte, et qui raconte très bien que, en fait, toute émotion venant, la tristesse, la peur, la colère, toute angoisse, il faut les accueillir sur le pas de la porte avec un sourire, parce qu'elles sont venues comme un guide venu d'ailleurs pour vous apprendre quelque chose. Et c'est un peu ce que vous disiez sur la nécessité de les reconnaître, en fait.
Oui, c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, au fur et à mesure où on trouve que bon, on a une partie très nocive en soi, il faut la comprendre et voir que si on ne la comprend pas, elle va se développer. Donc, on a vraiment intérêt à faire de l'introspection. Et dans le film, on voit à quel point le contact avec les autres permet de faire le point. Plus exactement, on voit le père notamment, il a cette chance-là aussi de discuter avec son fils et de prendre conscience qu'il a loupé pas mal de choses. Et donc c'est hyper intéressant de voir cette multiplicité de réflexions à partir d'une personne qui arrive à un tournant de sa vie où il faut vraiment changer des choses.
Est-ce que ça porte un nom ? Parce qu'on l'évoque depuis tout à l'heure sans forcément préciser comment on l'appelle.
Alors moi j'appellerais ça la vie. Vous voyez ? La réalité
ça
de la
va,
vie.
Ça
Mais
me
oui,
va.
C'est la réalité de la vie. Et notamment cette période de confinement qui a été tellement difficile pour tellement de gens, se sont retrouvés face à eux-mêmes avec des crises existentielles qui finalement vont déboucher sur une meilleure connaissance de soi et des changements de vie. Mmh. On l'a vu d'ailleurs.
Et cette voix-là, comme ça, qui nous parle, comment on fait pour se réconcilier avec elle ? Comment est-ce qu'on... C'est quoi ? C'est notre mauvaise conscience ? C'est ce dont on a besoin pour avancer au quotidien ? C'est inéluctable ?
Oui, alors quand vous dites mauvaise conscience, peut-être que c'est la bonne conscience qui nous permet d'avancer en ayant une analyse beaucoup plus large des choses. Alors, quand on est tellement mal au niveau de nos angoisses qu'on n'y arrive plus, là, moi, je conseille toujours, évidemment, d'aller voir un psy. Mmh. Parce que les psychothérapies aident à faire le lien entre la petite enfance et tout ce qui a dysfonctionné. Moi, je trouve qu'à partir de 18 ans, tout le monde devrait faire une petite tranche pour être plus objectif par
une
rapport...
Une petite tranche, c'est-à-dire
Une tranche de psychothérapie, pardon. Quelques séances. Pour, on parle de tranche de psychanalyse, d'accord. Ou de choses comme ça. Mais bon, des séances de psychothérapie pour comprendre tout ce qu'on a pu vivre de difficile et pourquoi on en arrive là. À 18 ans, je trouve que c'est formidable si on peut le faire. Et après, c'est n'importe quel événement qui nous déstabilise et qui, en fait, sont des cadeaux pour une meilleure connaissance de soi-même et pour se renforcer.
Ouais, c'est trouver les clés, ses propres clés, tout pour ensuite avancer avec plus ou moins. Vous avez fait une analyse, vous, Guillaume ?
Oui, j'ai fait une analyse il y a quelques années. Je devais avoir, une trentaine d'années. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être un peu trop tard, mais... Mais ça a été très très intéressant. C'était très très intéressant et c'est vrai que les traumatismes de l'enfance sont souvent le problème et qu'on s'en rend pas compte en fait. Mais on se fige, on se met dans des états des fois où on comprend pas pourquoi on réagit comme ça face à des situations qui sont des fois assez banales. Et en fait, on se rend compte que ça fait écho à des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Donc c'est quelque chose de très intéressant.
C'est au cours de cette analyse qu'il a germé le projet ?
Non, parce que en fait c'était il y a longtemps, mais je pense que c'est la maturation fait qui a suivi cette analyse et qui a fait que après quand vraiment je me suis posé tout d'un coup, c'est pour ça que ça a été aussi fulgurant.
Que c'est revenu d'un seul coup.
Dans le film, vous évoquez un moment qui est hyper personnel quand vous parlez de la figure du père qui quand il décide de partir, quand le personnage du compositeur est très très jeune, claque la porte et fait un arrêt cardiaque
derrière la porte.
Juste en fermant la porte. Ça, c'est une partie très autobiographique.
Oui, ça s'est passé. Mon père quittait ma mère et je lui ai dit, si tu passes cette porte, t'es plus mon père. Il a fait un infarctus derrière la porte. Donc c'est toujours, on se sent à ce moment-là hyper coupable, responsable. Et je précise, mon père est encore là, mais il a eu beaucoup de problèmes de santé après cet événement-là. Et j'ai toujours eu l'impression, comme je le dis dans le film, comme le personnage dit dans le film, d'être le déclencheur. Et qu'il aurait aimé avoir cette discussion avec le père, et que le père puisse lui dire que pas du tout, qu'il est parti parce que sa mère le faisait chier, que tout ça, et qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles il partait.
Et qu'il l'a peut-être même pas entendu.
Et qu'il a pas entendu. Moi, de toute façon, c'est ce que mon père m'a répondu dans la vraie vie, qu'il m'a dit qu'en aucun cas c'était ça. Sauf qu'un enfant, s'il n'a pas l'information, il grandit avec ce truc-là, avec cette angoisse, et il se dit qu'il est responsable.
Marie-Claude, dans le film aussi, on a quelque chose de très très symbolique à chaque fois, de très psychanalytique, avec cette île, cette maison au ras des falaises, avec cette pièce à l'étage, avec ces bruits que le personnage entend, avec cette façon dont ces esprits ou ces visiteurs du soir se déplacent dans les se passe, ça, ça doit être une lecture psychanalytique passionnante pour vous.
Ah, c'est tout à fait passionnant, et notamment la pièce mystérieuse peut symboliser l'inconscient, et on doit aller chercher ce qui s'y passe. Et en fait, là, il ne s'y passe pas une folle, on ne trouve pas, mais une part de soi-même à nouveau. Donc tout ça est vraiment hyper intéressant, constructif et très très véridique en fait. Et lorsque vous dites que à 30 ans c'est peut-être un peu tard la psychanalyse, oui, parce que la souffrance.
Voilà. C'est foutu.
Non. Vous savez mettre l'ambiance. Vous.
Oui, absolument. Effectivement, entre le moment où votre père a fait cet infarctus et les 30 ans, vous avez trimballé une culpabilité extrêmement douloureuse. Mais moi, je suis bien placée pour dire qu'on peut faire des thérapies, même jusqu'à 80 ans, des thérapies de couple, 85 ans, moi je l'ai vécu. Donc, ce n'est jamais trop tard pour aller à la rencontre de soi-même, jamais.
Quand on parle de cet autre en soi, de cette altérité, quelle différence on fait avec de la schizophrénie? À quel moment on s'inquiète aussi?
Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La schizophrénie, c'est une psychose, c'est-à-dire une rupture totale par rapport à la réalité.
D'accord.
Et la schizophrénie, donc, c'est un, il y a un délire. Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est un délire, et le plus souvent avec des hallucinations. Alors, ce qui se passe dans le rêve, dans le film, ce ne sont pas des hallucinations, c'est une réflexion et l'imaginaire, la créativité du personnage. Dans la schizophrénie, il y a des voix qui disent des horreurs, visuellement des choses très très douloureuses, des kinesthésies, c'est-à-dire on ressent des piqûres, des brûlures, des tas de choses. Donc, on n'est pas du tout dans le même domaine.
Merci beaucoup Marie-Claude. Mais ouais, vraiment merci pour cet éclairage.
C'est, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup et franchement, je vous remercie vous aussi d'avoir pris d'avoir eu cette idée de vous faire voir le film et d'avoir votre écho. Et j'ai fait une projection il y a pas longtemps d'ailleurs avec des psychiatres et des psychothérapeutes et j'ai regretté. En fait, je me suis dit c'est tellement intéressant que c'est dommage que les gens ne puissent pas entendre l'avis d'un professionnel. Et donc je suis ravi que vous ayez pu en parler.
Moi aussi. Marie-Claude Gavard, psychiatre, et je rappelle, auteur de nombreux livres, dont « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?»« Colère, blocage, déprime, conflit, tous les conseils pour s'en sortir » aux éditions Marabout. Merci Marie-Claude d'être venue dans la bande originale. On a un héros du jour dedans aujourd'hui, Daniel Morin.
Allez. Vous pensez bien. Alors aujourd'hui, mon héros du jour aurait très bien pu être Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, une marque américaine de sous-vêtements féminins. Pourquoi ? Eh bien parce que cette femme dont la société vient d'être valorisée à 1,2 milliard de dollars, a décidé, pour fêter ça, de faire des cadeaux à ses 500 employés. Une bouteille de mousseux californien ? Non. Une boîte de chocolat colombien ? Non. Un taco géant mexicain ? Non. Après s'être adressée à ses 500 employés en jouant avec un globe terrestre, elle leur annonce qu'elle leur offre à chacun 2 billets d'avion en première classe pour la destination de leur choix. Hurlement de joie, pleurs, roulade au sol, tu imagines le truc. Moi, la dernière fois que j'ai reçu un titre de transport de mon employeur, c'était un billet de train en seconde pour aller à Roubaix. Bref, cadeau de malade, mais c'est pas tout. Sarah leur annonce qu'il y aura un deuxième cadeau. Chacun des 500 employés va recevoir 10 000 dollars. 10 000 dollars, un voyage en première pour deux où tu veux. Cette femme est une sainte. Elle fait un gros coup de pognon et elle en fait profiter les employés. C'est plus de la gauche, c'est de la folie. Elle aurait pu facilement être mon héroïne, cette Sarah Blakely, facile et pourtant, non, ce n'est pas mon héroïne du jour. Mon héroïne, ou plutôt mes héroïnes, sont des oiseaux. Des grues cendrées. Alors oui, bien sûr, j'entends déjà d'ici les murmures du style. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il choisit des piafs à la place de cette femme merveilleuse? Il est con ou quoi? Alors d'abord, restez poli. Ensuite, c'est mon papier, je fais ce que je veux. Et enfin, je tenais à saluer le courage de ces volatiles. Oui, parfaitement, le courage de ces grues qui en ce moment se préparent au grand voyage. Ces grues cendrées habitent en Scandinavie et là, elles prennent la direction du sud de l'Espagne. Vol. Vol, vol, petit escadron épris de liberté, de terre chaude. Fuis le destin réfrigéré que te réserve la terre hostile du nord de l'Europe. Emporte dans ton sillage les jeunes et les vieilles grues qui, plus encore, craignent les frimas. Vol avec tes amis, direction l'Andalousie. Andalousie, terre d'accueil où le climat flamenco saura te faire passer un hiver moins rude au son des castagnettes sévillanes qui entraînent avec lui le souvenir Luis Marianesque d'une belle de Cadix dont le velours des yeux réchauffera ton cœur. Vol, vol, petite grue.
C'est pas possible.
Voilà pourquoi, chers amis, je n'ai pas choisi comme héroïne la généreuse vendeuse de culottes américaine, mais la grue cendrée scandinave qui, pour se chauffer le croupion, n'hésite pas à se taper plus de 3000 km dans une partie au-dessus de la France, alors que la chasse aux oiseaux de passage est ouverte.
Merci Daniel Morin. Je sais pas pourquoi, en entendant parler des grues et de ce passage, de cette migration, j'ai pensé au personnage de Mathieu Kassovitz dans le film Le Copain.
Ah oui, pourquoi ?
Qui rend visite.
On va rappeler la psy.
Qui rend visite donc à ce compositeur en panne d'inspiration que vous incarnez, qui s'est réfugié sur une île loin de sa femme et de ses enfants dans l'espoir de composer, mais plutôt, à mon avis, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans sa tête. Un copain qui lui parle aussi, lui, de son rapport à l'infidélité, et c'est très très drôle.
Oui, il est très macho, et il lui dit que jamais, jamais, il faut dire quoi que ce soit, il faut pas en parler. Et on se rend compte, en fait, que lui se rend compte, tout d'un coup, en repensant à ce que lui a dit son pote, il se demande s'il n'y a pas une histoire entre lui et sa femme, en fait. Mmh. Et du coup, il y a tout un truc qui se met en place, et il y a cette scène assez cocasse où ils se retrouvent tous les trois au lit. Mais et voilà, c'est ce que je trouve intéressant et assez drôle là-dedans, c'est aussi le rapport qu'a sa femme par rapport à son travail. Mmh. Et de dire toute l'admiration qu'elle a pour son pote, quand lui réalise qu'en fait son pote est tout ce qu'elle déteste. C'est-à-dire qu'il est macho, il trompe sa femme, il ment à sa femme, et quand il lui dit mais tu te rends compte, enfin t'étais là en train de faire tout l'éloge de ce type alors qu'il est tout ce que tu détestes, elle dit mais oui, moi je vis pas avec lui, et puis il est drôle, et puis je le trouve très sympa, et puis c'est un excellent musicien. Toi t'es un bon compositeur, ouais, mais lui c'est un très grand musicien. Voilà, ça c'est
d'où détestation.
Lui est en salle à partir de demain, un film réalisé et interprété aussi par Guillaume Canet. Et tout de suite c'est Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
On va parler de quoi ? Je te mets des applaudissements parce que ça me fait plaisir, mais dans un instant, on parle de quoi ?
Eh bien, je vais vous parler
sois gentil, dis donc.
Je vais vous parler des teckels. Oui. Ce sont des animaux surprenants, vous savez. J'adore les teckels. S'ils n'avaient pas cette haleine-là, je les embrasse.
Mais on je en parle jusqu'à midi 30. Il n'y a pas qu'en Thaïlande qu'on fume. Hein.
Parce que là, vous avez rien,
trois rubriques.
Avec Morgane Cadignan, avec Paul Mirabel, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Guillaume Canet. Guillaume Canet en salle demain, lui, film que vous avez réalisé où vous interprétez ce compositeur en mal d'inspiration qui part se réfugier loin, loin, loin de la famille et du tumulte, quand même pour accueillir sa maîtresse, hein, on sait jamais sur un malentendu, un compositeur qui nous entraîne dès le début du film dans une atmosphère assez inquiétante, et ça c'est, on la doit cette atmosphère à Alexandre Desplat. Où on se dit, oulala, on va pas y rester 15 ans sur cette île.
Le vent va tourner, il va pas faire beau.
Oui, il va se passer quelque chose. Il y a des pièces inaccessibles dans cette maison. Ce piano désaccordé participe aussi du malaise et de l'angoisse. On a l'impression qu'on a un peu froid là-bas, dans cette maison au bout de la falaise, battue par les vents. Les habitants de l'île, le peu qu'ils voient,
sont étranges.
Ils ont des gueules, on va le dire comme ça.
C'est vrai, non, c'est totalement anxiogène au départ. Au départ,
bien sûr, puisqu'ensuite on va se livrer à un véritable exercice d'introspection avec des visites. Ce personnage va se confronter à son double, à cet autre, à son connard aussi, mais pas que, un connard qui peut être bénéfique à sa femme, à sa maîtresse, à ses parents,
à son médecin,
son pote, interprété par Gilles Cohen. Et puis Mathieu Kassovitz, on l'a évoqué tout à l'heure, ce copain là qui reçoit tous les suffrages de sa
très
femme.
Très ironique, ouais.
Pourquoi vous avez choisi Mathieu Kassovitz ?
Vous mettez que des musiques hyper angoissantes.
Ouais. Alors je vais
balancer le thème.
Autre.
Balancer le thème. Ah.
C'est mieux.
Voilà, ça c'est le thème.
Voilà.
Oui, ça m'arrange. Ouais.
Alors, ça, c'est le thème qui va finalement réussir à composer quand il va commencer à s'apaiser un peu.
Alors Mathieu Kassovitz, pourquoi lui ?
Alors Mathieu, parce que en fait, ce qui était très étrange, c'est que j'aurais jamais pensé franchement à lui, parce que je savais pas qu'il accepterait de jouer ça.
Et Pourquoi ?
Parce que c'est pas un rôle très important et que je savais pas vraiment s'il aimait bien mon travail, si tout ça. en fait, c'est mon agent qui m'a dit mais si, il a adoré rock'n'roll et tout, et je pense que ça vaut le coup. Et puis et il a lu très vite et il a accepté. J'étais ravi, en fait, j'étais super content parce que je fais partie de la génération des metteurs en scène qui sont un tout petit peu plus jeunes que lui, pas beaucoup mais un petit peu. Et je me rappelle quand j'avais été à 14h voir la séance de La Haine, je m'étais pris une tarte dans la gueule énorme. Et je m'étais dit ah ouais, mais donc on peut faire des films comme ça à cet âge-là et tout, et ça m'a vraiment motivé beaucoup, en fait, pour faire mon premier film après. Ouais.
Et puis il faut passer quand même quatre semaines de tournage tous ensemble, parce que c'est alors peut-être pas toute la durée, mais bon, faut bien s'entendre aussi.
Ouais, mais c'était vraiment une ambiance de court-métrage. On était dans un dans un endroit qui était quand même magnifique au bord de cette falaise. Et c'était vraiment une ambiance très très chaleureuse. On était entre nous à la sortie du confinement, donc ça nous est tous du bien de prendre un bol d'air frais, c'est le cas de le dire, parce que là on était devant cette falaise. Enfin, c'était vraiment très très agréable.
Est-ce que paradoxalement, vu la beauté du paysage, vous vous êtes dit certains jours, merde, il fait beau, on peut pas tourner?
Alors. Et effectivement, il y a des séquences qu'on attendait de tourner.
Ouais.
Parce que ce qui est magnifique sur une île, c'est qu'il y a aussi des changements de climat, de météo. Il peut faire un temps différent 5 fois dans la journée. Mais j'avais envie de ça, ouais. J'avais envie aussi que ça soit un peu plombé par moment. J'avais envie que le soleil sorte par moment aussi, dans les moments qui étaient importants dans le film. Donc on a un peu joué entre l'intérieur et l'extérieur en fonction du temps. Ouais.
Ah, la Bretagne, la
lumière
pluie,
est magnifique,
la lumière,
chez Metoff.
Tout ça, ça fait plaisir à Tanguy Pastureau.
Oui. Oui,
ça toi, Tanguy.
Hier, j'étais en train de chiller, c'est le terme un peu classe pour dire qu'on branle rien, quand soudain j'ai reçu une notification Twitter. Alors quand on vous tag sur Twitter, c'est soit quelqu'un qui vous traite de fils de yinche, soit quelqu'un qui vous dit mange t'es mort. Bon, c'est rarement bienveillant. Autant Instagram, on met des cœurs à la première poufiasse qui bouge sa carcasse usée sur du R&B de seconde zone. Autant Twitter, c'est le réseau officiel de la haine en ligne. Là-dessus, tout le monde a la tourette. Mais ici, pas du tout. Il s'agissait d'une internaute, Bchloé56, qui m'envoyait un lien vers un article du Parisien. Les gens font tout pour moi, j'ai même plus besoin de suivre l'actu. Je peux passer la journée à regarder la barbe de Jean-Michel Blanquer, cette masse touffue qu'il a autour de la bouche et qui donne toujours l'impression qu'il est en train d'avaler un chat gris qui refuserait de se laisser manger. Hein, je suis sûr que lui-même se caresse le menton en murmurant « Elle est belle, ma minouche ». Donc, je lis le titre de l'article « Un vol Air France décolle de Roissy avec 40 minutes de retard à cause d'un teckel ». Alors tout d'abord, 2-3 mots à propos du teckel. Le teckel est un chien long et court sur pattes qui ressemble à Adriana Carambeu quand elle s'étire. Il en existe de 3 variétés de poils, poil ras, poil dur et poil long, comme nous en fonction de la régularité avec laquelle on va chez l'esthéticienne. Le teckel est d'origine allemande, on le sait à son nom qui finit en L. Merkel, allemande, Tokyo Hotel, allemand, teckel, allemand. S'il avait été espagnol, il serait appelé El Teckel. Le teckel est un excellent chien de chasse, spécialisé dans le déterrage de blaireaux. Avec sa truffe, il creuse dans le sol et arrive à dénicher les blaireaux. Alors que nous, pour faire ça, on doit se rendre dans les rassemblements de tuning. Sachez qu'en France, existe le club des amateurs de teckel. Voilà, vous pouvez adhérer à condition d'aimer les teckels. Alors, ça marche pas comme ça avec tout. Hein, moi, j'ai voulu adhérer à la Fédération Française de Naturisme. Je leur ai dit, j'aime les naturistes, hein, surtout les femmes 30, 50 ans avec des gros seins. Bon, ils m'ont refusé l'admission au motif que je refusais de me déshabiller moi-même. Le naturisme, on est obligé de pratiquer quand on s'inscrit. C'est comme le ping-pong, mais en moche. Le club des amateurs de teckel, c'est écrit sur leur site, a pour objet d'améliorer la race teckel. En fait, c'est de l'eugénisme. Hein, mais comme c'est pratiqué sur des êtres qui s'appellent pitchoun, c'est autorisé. Ouais. Bref, je vous raconte l'histoire maintenant que vous en savez plus sur les teckels. Samedi à Roissy, c'était report sordide où on se dit en pleurs que s'il y a un crash, le dernier truc qu'on aura fait, c'est bouffer un muffin au Columbus Café. Un couple entre dans un avion pour Édimbourg. Édimbourg, c'est beau, c'est sombre, c'est humide, comme Jean-Louis Murat le samedi soir, quand il est un peu chaud. Mais c'est la capitale de l'Écosse surtout, cette nation non genrée de mecs en jupe totalement ivres. Le couple, une russe, et un américain, donc ça prouve que la paix et l'amour sont toujours possibles dans ce monde. Laurent Voulzy était dans le vrai. Entre dans l'avion avec, je cite un des passagers, un grand sac en plastique qui bouge. Dans le sac, ça ne peut donc être ni Jean-Yves Le Drian, qui ne bouge pas, ni des audiences de France 4, pour la même raison.
Oh,
là, une audience de l'air plus vigilante que les autres se dit Zarma. Ce sac bouge quand même beaucoup. Zara. Si ça se trouve, ils ont juste oublié de tuer la vachette avant de le fabriquer, mais pas sûr. Donc, elle ouvre le sac, et là, on sort non pas Xavier Dupont de Ligonnès. Hein, dommage, parce que ça aurait conclu l'affaire et on aurait pu se mettre à rechercher Smaïn, qui lui aussi a disparu. Hein, mais un teckel. La bête s'est mise à japper, tout l'avion a fait « Oh, il est mignon le kiki hein, !» Puis le commandant de bord a dit « Bon, le temps de débarquer le couple, le teckel plus les bagages, on va avoir 40 minutes de retard. » Et là, tout l'avion a dit « Oh, tuez-moi, c'est con ! Déguisez-les en blaireaux et faites-les dévorer par leur chien qui d'ailleurs n'a rien de spécial, il est nul et moche. » Oui, parce que la législation est précise, on peut prendre en cabine son chien s'il fait moins de 8 kilos. À l'aéroport, il y a un monsieur qui pèse la bête. Voilà, parfois il dit au maître « Ah, 9 kilos !» Seule solution, c'est d'y couper les pattes arrière. À l'arrivée, vous lui foutez une bouteille de cristalline, ça permet de rouler, le tour est joué. Donc là, le teckel dans l'avion, ça passait. Mais le souci, c'est que si vous allez au Royaume-Uni comme ce couple, le teckel doit avoir une puce électronique, un passeport européen, s'il a des lunettes, il peut les porter sur la photo, mais aussi avoir fait le vaccin antirabique, qui n'est pas un truc vaguement antisémite, hein, c'est le vaccin contre la rage, et avoir eu un traitement contre l'échinococcose 5 jours avant le voyage. L'échinococcose, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, n'est pas une chanson de Julien Doré, mais une maladie due à des vers. Donc le teckel qui bouge dans le sac, vous pouvez être sûr qu'il n'était pas vacciné. Encore un qui a suivi Francis Lalanne
Anne, hein, à cause des cheveux, ses cheveux, il a cru que c'était un collet très bien toiletté. Maintenant, il est anti-vax, ce con. Donc, interrogé par Le Parisien, le personnel navigant dit, je cite, la dame était en larmes. C'était dur, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ben non, parce que si vous êtes laxiste, ça va se savoir. Et dans 2 mois sur Air France, les mecs essayent de rentrer à un port et 12 poules. Hein, votre vol sympa pour l'Écosse sera la même tête que les voyages en bus dans le fin fond de la Bolivie. Alors, seule question à Roissy, explique l'article. Tout le monde se demande comment le personnel au sol a pu laisser passer un couple portant un grand sac en plastique qui bouge. Vous vous bipez une fois sous le portique, on vous désosse, mais un teckel qui se dandigue entre 2 pulls, ça passe. Hein, ils ont dû se dire que si ça avait été un couteau, je sais pas, ça aurait pas bougé. Enfin, la logique des gens d'aéroport m'échappe. Tout ça pour vous dire que nous, les teckels en France, on les prend. On a même un club d'amateurs de teckels. Donc, bienvenue en France à tous les teckels du monde.
Bravo, bravo, Tanguy.
Tanguy qui sera en spectacle ce samedi à Saint-Laurent-du-Nest, c'est dans les Hautes-Pyrénées.
Et demain, en salle, lui, de Guillaume Canet, avec un casting tout nouveau, finalement, avec de nouvelles collaborations. Vous avez dit que vous rêviez de diriger Virginie Efira. Qu'est-ce que vous voyez en elle, en tant que metteur en scène?
D'abord, je trouvais que pour le rôle, je voulais, comme je le disais tout à l'heure, je voulais pas que ça soit une victime, je voulais que ça soit une femme qui soit blessée par cette situation, mais qu'elle soit forte, qu'elle ait du caractère.
Et ça aurait pu être votre compagne?
Oui, totalement, bien sûr. Bah, on y a pensé, mais c'est vrai que j'avais pas envie, elle non plus, de reproduire un peu le schéma de rock'n'roll. Ça faisait un peu redite. Et en fait, Virginie, j'avais tourné avec elle dans un film qui s'appelait Le Grand Bain, dans lequel il y avait une scène où on était dehors et elle venait me voir et elle me disait, pourquoi tu t'empêches comme ça? Et je lui disais, je m'empêche pas. Et là, il y a Paul Vord qui sortait de loin de la piscine qui fait « Ouais, pourquoi tu t'empêches ?»
Bien vu.
Et en fait, je lui avais parlé à cette époque-là de moi et du fait que ça me correspondait un peu sur ce personnage qui s'empêche des fois de se réjouir des choses et tout ça. Et en fait, du coup, bah voilà, j'ai pensé à elle parce que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec elle. Je trouve qu'elle avait aussi un phrasé, un rythme dans la manière de parler. Qui permettait aussi toute la partie comédie du film, parce qu'il y a des scènes aussi on parle de choses importantes, enfin de sévères dans le film, quoi, sérieuses, mais il y a aussi de la légèreté, il y a aussi des scènes assez cocasses, assez décalées, absurdes, et j'avais envie que dans le phrasé, dans la manière de parler, elle puisse nous donner ça, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai mon choix s'est porté sur Virginie.
Et des scènes de tendresse aussi. Enfin, des scènes de tendresse qui peuvent tourner court, hein, selon la situation. Avec Virginie Efira, avec Laetitia Casta aussi, qu'on a plaisir à revoir sur grand écran. Nathalie Baye, qui est pour le coup une fidèle. C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Patrick Chesnais. Et Gilles Cohen, quand il s'agit de choisir ses parents, justement, des comédiens pour incarner ses parents, même si en effet il y a une distance, que tout n'est pas votre vie, mais ça doit être quand même un choix particulier. Vous en référez à vos propres parents, justement, en disant « Ah, j'ai choisi alors Patrick Chesnais pour toi
». Non, je leur ai pas parlé avant. Mais j'étais très très heureux, Patrick Chesnais, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément depuis très très longtemps. Et je trouvais qu'il avait dans sa manière de parler, dans cette façon un peu des fois où il mélange un peu les choses, où il y a un truc un peu incertain des fois dans sa façon de parler. Et il me faisait beaucoup penser à mon père. Et donc voilà. Et Nathalie, parce que voilà, j'ai énormément d'estime pour elle depuis très très longtemps. Et je trouvais ça formidable. Qu'elle accepte de jouer
ce rôle-là, en plus bien ronchon, comme on aime bien. Lui, c'est en salle demain. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture? Quelques questions, si je vous dis François Berléand, Julie Depardieu, Lynn Renault, Tom Villa, tenez, Michael Young, Pierre Palmade, je parle du casting de...
Jackass?
Non. C'est de la télé, c'est de la télé.
Ah oui, LOL.
Non.
C'est longtemps que j'ai
non,
pas
non,
entendu
non,
Jackass.
Non. On va parler.
C'est de Munch.
Non plus. Non plus. Il y aura Julie Ferrier, Michel Larocque.
Ah, je suis une célébrité, sortez-moi de là.
Benabar non plus, Elise Moon.
C'est une émission.
C'est une œuvre culte. Qui est devenue culte avec le temps. Muriel Robin, Carole Bouquet.
Une œuvre culte.
Ouais. Nikos Aliagas aussi. On sera Audrey Fleurot.
Mais c'est un film.
C'est une fiction.
Le Coran.
C'est une. C'est pas complètement une fiction. Oui, c'est une pièce d'humour.
De théâtre.
Ouais,
bah c'est
La Cage aux Folles.
Non, Palma de la Roque.
Ils se sont aimés.
Ils s'aiment, ou presque, de Palmade et Larocque version télé pour TF1. Avec cinq couples, Larocque Ducré, Palmade Bouquet, Robin Arditi, Youn Fleurot, Tagbo Père et de nombreux invités que je vous ai cités. La télé, des séries télé, est-ce que ça vous tenterait, Guillaume?
Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas si c'est de qualité. Ouais, pourquoi pas? Je trouve que c'est
un avantage. C'est une autre façon de raconter.
Ouais, c'est un avantage, c'est qu'on peut vraiment développer des personnages en fait, on peut vraiment sur la longueur aller un peu plus. Moi, je suis un peu là en ce moment, je suis mordu par Succession. Et c'est vrai que on peut du coup vraiment voir ces personnages évoluer, changer et puis s'y attacher en fait. Et c'est toujours très très agréable. Il y a un côté frustrant quand on écrit un film de pas pouvoir développer tous les personnages. Donc ça, c'est quelque chose qui me plairait bien.
Il y aurait un sujet déjà ou quelque chose qui pourrait vous tenter de un film, une série sur une époque en particulier. Alors je sais que c'est plein de contraintes supplémentaires, dès qu'il faut des décors, des costumes. Ouais. Ça pourrait être une atmosphère plaisante.
Pourquoi pas. Ouais, carrément. J'avais bien aimé Versailles d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'on me l'avait proposé. À l'époque, j'avais dit non, mais jamais de la vie. Louis XIV qui parle anglais, n'importe quoi.
Et vous l'avez regardé.
Et en fait, j'ai regardé et en fait, j'ai bien accroché.
Autre question, le film Boîte Noire avec Pierre Niney a dépassé le million d'entrées en salle, mais il va avoir un nouveau spectateur particulier. De qui s'agit-il ?
Macron ?
Ce n'est pas Emmanuel
le
Macron.
Le directeur du BEA.
Non plus. C'est pas un comédien, c'est pas le président, non, j'espère que Pierre Niney l'a vu.
Un pilote de ligne.
Un spectateur particulier.
Ah, Pesquet ?
Bien sûr, c'est Thomas Pesquet, absolument.
Il va le voir là-haut dans l'espace ?
Ouais, il a découvert déjà Kaamelott.
Il a rien d'autre à faire.
Il avait demandé à voir Kaamelott et il l'avait vu dans l'espace.
Qu'est-ce qu'il veut lui passer comment ?
Et là il va recevoir une copie de Boîte Noire.
Oh, l'angoisse quoi. Regarder un truc sur un crash complet dans l'espace.
Alors ça, je ne sais pas comment il va le prendre, il nous racontera.
Du stress, quoi.
Et justement, Pierre Niney, sur les réseaux sociaux, envoie un message à Pesquet en lui disant « Est-ce que vous avez une boîte noire là-haut, justement, au cas où ?»
Ça continue.
Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma, Guillaume ? Est-ce que vous allez au cinéma beaucoup ou pas ?
Oui, j'adore aller au cinéma. D'ailleurs, je dis pas ça par rapport à mon film, évidemment, que j'ai envie que les gens aillent dans la première semaine même, parce que c'est vrai que maintenant, dans la première semaine, tout se joue. Donc, si les gens n'y vont pas la première semaine, c'est raté. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que les gens retrouvent la confiance d'aller au cinéma. D'abord, on a plus besoin du masque. Ça prouve quand même que c'est un endroit safe. Hein,
on risque rien. Et puis si
maintenant,
aussi, même
on peut aussi le garder. Voilà, on peut aussi le garder. Mais en fait, il y a une tranche d'âge de qui ne sont pas retournés au cinéma, qui ont découvert les plateformes, qui ont découvert le plaisir de pouvoir avoir un film chez soi, l'économie aussi parce que le cinéma coûte cher. Mais en tout cas, si les gens veulent que le cinéma continue d'exister, il va falloir que les gens retournent au cinéma, parce que quand on voit que par exemple il y a des maisons comme Disney qui annoncent qu'ils vont plus sortir leurs films en salle, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que ça c'est tout un public de jeunes aussi, de tous les Marvel et tout ça, qui vont regarder tous les films en streaming ou sur les plateformes, et ça c'est une vraie catastrophe pour le cinéma. Donc moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager un film avec du public. J'avais été voir le film de Laurent Lafitte.
L'Origine du Monde.
Ouais, et c'est vrai que j'entendais les gens rire. Et ça me faisait rire, les scènes, évidemment, mais aussi les gens qui rigolaient. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est tellement agréable de partager un film et d'avoir des émotions avec les gens. C'est quand même autre chose, quoi, que de le regarder juste chez soi tout seul.
Lui, c'était hors de question qu'il sorte sur une plateforme. C'était pas le projet, c'était pas ça l'idée de départ.
Non, parce que il y a eu une interrogation à un moment, parce que comme il fallait le faire très vite, il y a eu une interrogation et moi très très vite j'ai dit à mon producteur, surtout quand j'ai vu et quand j'ai entendu souvent les demandes en fait des maisons en fait des plateformes, ils ont un code, enfin quelque chose. Bon, bref, je suis en bug. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un défibrillateur
voilà.
Non, mais il y a une liste de choses qu'il faudrait faire, qu'il fallait faire sur le scénario pour que ça puisse convenir à une plateforme.
C'est une bible, on appelle ça, non ?
Une sorte de bible. Ouais. Mais en tout cas, moi, un cahier des charges.
Oui, d'accord.
C'est ça que je cherchais. Merci. Mais en tout cas. Choqué. Du coup, voilà, je me suis dit, non, je veux cette liberté de faire le film que j'ai envie de faire. Et voilà.
Alors, on pourrait s'imaginer qu'avec la sortie de lui en salle demain, Guillaume Canet, vous allez être au repos. Pas du tout, parce qu'il y a toujours du travail, beaucoup de boulot. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira dans combien de temps à peu près?
Je pense fin 22, début 23, début 2023.
Alors, qu'est-ce que ça va être la nouveauté, justement, dans cet Astérix et Obélix?
Il y avait une vraie volonté de ma part de changer un petit peu justement les codes et ce qui avait été déjà fait en fait. Il y avait déjà de changer Obélix, c'était quand même déjà un grand risque parce que c'est vrai que bah il avait tué un peu le jeu en fait hein,
Depardieu
qu'il était formidable dans ce personnage. Pour plein de raisons, c'était pas Gérard Depardieu et déjà la première c'était déjà lui qui avait pas envie et puis moi j'avais très envie de rajeunir aussi les personnages et j'avais envie d'un film très ambitieux avec des vrais bastons, avec des bagarres, avec des grandes scènes de bataille, avec des effets spéciaux, avec des cascades, et donc je voulais aussi que les personnages soient un peu plus jeunes et puissent faire ces batailles et puis il y a une volonté dans l'écriture d'essayer de donner un petit 109 en fait à cette franchise et de faire un vrai grand film de voyage épique et donc voilà, c'est un film très très ambitieux.
On a bossé
très
aussi.
Très dur.
La place des femmes ouais, aussi.
Ouais, bien sûr, évidemment.
Plus contemporain.
Ça, vous verrez, il y a deux personnages féminins. Enfin, il y a plusieurs personnages féminins, mais le personnage central du film, d'ailleurs, est féminin. C'est cette princesse chinoise qui
incarnée
vient demander de l'aide. Julie Chen, qui est extraordinaire, qui n'était pas comédienne. C'est sa première expérience au cinéma. Et elle est extraordinaire. Et il y a un autre personnage, vous verrez, qui est une vraie grande découverte aussi. Et donc voilà, c'était un grand plaisir. Et voilà, je suis en plein montage. Il y a un travail énorme, mais voilà, j'ai pu aller aussi dans un cinéma qui me plaît beaucoup et avec lequel j'ai grandi. C'est le cinéma chinois avec des combats de kung-fu au câble. Avec tout ce côté un peu tigre et dragon et tout, donc qui donne ce côté un peu fantastique aussi.
C'est un gros projet.
C'est un très très gros projet.
Il y a aussi 4 semaines de tournage.
C'est beaucoup,
c'est beaucoup de pression.
Record.
J'imagine que c'est aussi beaucoup de pression. Parce que on parle de ce film comme l'un des films français les plus chers à produire, avec le plus de moyens. Donc quand on est à la tête de cette grosse entreprise, ça doit pas être non plus toujours simple.
Très sincèrement, en fait, je vous avoue, c'est pas du tout. J'ai jamais eu ce genre de pression là. Mmh. En fait, j'ai d'autres pressions, mais je flippe plus pour le public que les gens tout d'un coup n'aient pas envie d'aller voir le film ou ne soient pas satisfaits par le travail que j'ai pu faire, que par l'énormité du projet. Alors, j'ai une conscience évidemment professionnelle qui fait que quand on me confie un film comme ça avec autant d'argent, je me dois. Mmh. Mais comme je bosse comme un dingue, nuit et jour, et que je fais tout ce que je peux, et que je suis vraiment pas un branleur, ça c'est sûr, je fais mon mieux. Donc après, je me dis, après, si on pourra pas m'accuser de pas avoir travaillé.
Voilà. Et là, on est en maîtrise du connard qui en soit, qui vous tire vers le bas, là, en ce moment.
Ah bah, total.
En tout cas, en salle, demain, lui.
C'est bien, vous le reconnaissez maintenant.
De Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Laetitia Casta, Nathalie Baye, Patrick Chenet, Gilles Cohen, Mathieu Kassovitz. Il est temps de vous présenter des excuses, cher Daniel.
Oui, alors déjà, des excuses pour les artistes, ceux qui sont en manque d'inspiration, qui rament, qui ont peur de manquer de tout, surtout de temps. Ces artistes qui ont découvert ce matin que Guillaume Canet avait écrit un film sur le sujet en 3 semaines, l'avait réalisé en 4 semaines, c'est injuste. Le monde est injuste. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus énervant. Là, pendant l'émission, il a écrit lui deux. Désolé pour monsieur et madame Glinchalère. Ils m'ont appelé à la pause pour me dire à quel point ils étaient outrés d'avoir eu leur nom associé à une paire de couilles. En revanche, monsieur et madame Burnovan m'ont fait part de leur satisfaction à ne pas, pour une fois, être associé à l'illustration de l'appareil génital. Et enfin, désolé pour nos auditeurs cinéphiles qui n'ont pas compris de quel cinéma parlait Tanguy quand il disait vouloir filmer des cornus. Alors, Guillaume Canet nous a donné un petit indice.
Ça fait un peu plus mal au cul.
Voilà, alors, ça a mis une ambiance particulière dans le studio. Hein, Leïla, depuis une heure, à quoi elle rêve, la Leïla ?
Elle rêve de chevaucher de temps.
Ouais, bah oui, mais pas de panique, pas de panique, monsieur, monsieur Cadour, c'était juste, c'est juste physique, c'est un petit galop avec Tanguy, et promis, elle rentre à la maison.
Le montage. Merci beaucoup, le beau montage, merci à tous, merci Guillaume Canet d'être venu dans la bande originale.
Et bravo pour le film.